Nous prenons le livre de Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18. À partir du verset 16. Genèse 18, à partir du verset 16, je rappelle ce qui est écrit dans Éphésiens 4. Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes pour amener ses enfants à la perfection. Donc nous sommes appelés à entrer de gloire en gloire à la perfection, connaître Dieu davantage. Comme notre frère Paul dit dans le livre d'Hébreux, il dit « Vous auriez dû être déjà des maîtres. » Donc le Seigneur ne nous veut pas juste être des consommateurs de choses spirituelles, ni des clients, mais il veut faire de nous des gens spirituellement évolués, spirituellement matures. Et il est écrit au verset 16, « Ces hommes se levèrent pour partir. » Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Nous voulons parler aujourd'hui de l'intercession, plus particulièrement des intercesseurs. Des intercesseurs. L'intercession, c'est le fait d'être un médiateur, d'être entre deux personnes. Donc si on te demande de faire l'intercession auprès de quelqu'un, c'est toujours en faveur de quelqu'un d'autre. Donc tu vas voir une personne pour dire « aie pitié d'une autre personne » ou « fais une faveur à une autre personne ». C'est ça l'intercession. Donc quand on dit intercesseur, ce sont des gens qui prient, qui se mettent au milieu entre Dieu et des situations où Dieu et des humains pour dire à Dieu, ne détruis pas, par exemple, pour dire à Dieu, sauve, pour dire à Dieu, aie pitié. C'est ça les intercesseurs. Et là, nous voyons Abraham jouer à la perfection ce rôle pour dire à Dieu, mais s'il y a 50 justes à Sodome, tu vas quand même détruire la ville, donc les justes et les méchants dedans. Dieu dit, bon, je ne détruirai pas s'il y a 50. Abraham descend 40, 30, 20 jusqu'à 10 et ça s'arrête là. Et il y a une phrase qui est vraiment le centre de notre prédication de Dieu, c'est « Cacherai-je au verset 17 à Abraham ce que je vais faire ?» C'est Dieu lui-même qui se dit qu'il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il va faire. Abraham était devenu comme un ami de Dieu et Dieu ne cache rien à ses amis. Il leur dit toujours, et c'est confirmé dans Amos au chapitre 3. Amos chapitre 3, au verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, à ses amis, les prophètes. Donc, le Seigneur s'est dit, mais est-ce que je veux cacher à Abraham ce que je vais faire? Et le Seigneur révèle à Abraham ce qu'il va faire, comme un ami, comme on parle à un ami. Et Abraham entre dans l'intercession pour dire, mais Seigneur, tu ne vas quand même pas faire ça. Et nous nous souvenons de ce que Dieu dit de Moïse. Quand les gens ont voulu se rebeller contre Moïse, notamment le frère et la sœur de Moïse, qui ont dit, mais Dieu peut parler aussi à nous. Pourquoi ? Il faut qu'on écoute tout le temps Moïse. Dieu avait dit, je parle aux hommes par des visions, parfois par des songes, mais attention, à Moïse, je parle face à face. C'est comme un ami pour moi. Et on se souvient de l'épisode d'Exode 32-33, Dieu veut détruire Israël pour laisser Moïse tout seul avec sa famille. Moïse dit à Dieu, non. Tu ne peux pas faire ça. Moïse fait une intercession courageuse vis-à-vis de Dieu pour dire à Dieu, non, mais si tu tues ton peuple, les gens vont se moquer de toi, ils vont dire que tu les as sortis d'Égypte et pour les tuer. Et à un moment, Moïse dit, dans ce cas, si c'est comme ça, élimine-moi aussi. Donc, Moïse va loin dans l'intercession jusqu'à mettre sa vie en jeu en disant, je ne peux pas te laisser faire ça, Dieu. Si c'est moi que tu dois punir, vaut mieux punir, me tuer moi-même. Mais ne détruis pas ton peuple. Au fait, Moïse est monté jusqu'à la dimension de Jésus lui-même, être prêt à donner sa vie pour le peuple du Seigneur, pour les hommes que Dieu aime. C'est pourquoi Dieu a dit à ces gens-là qui voulaient se rebeller, « Attention, Moïse est mon ami. » Donc vous, je vous parle, mais à distance. Mais à Moïse, je parle face à face. Et lorsque nous lisons aussi Jean au chapitre 15, verset 15, il est écrit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Le Seigneur dit aux apôtres, Maintenant, vous êtes mes amis parce que vous êtes au courant de mes activités. Vous êtes au courant de mes projets. Je partage avec vous face à face. Donc, les apôtres ont passé ils ont changé d'étape à deux reprises, mais donc ils ont pris trois stades. Premier stade, c'est qu'ils ont été sauvés par le Seigneur. C'est ça le chrétien. C'est le premier stade. Un jour, conscients de nos péchés, nous sommes partis vers le Seigneur. Il nous a sauvés. Deuxième étape, il a fait de nous ses serviteurs. Quand tu es sauvé, après tu deviens un adorateur et tu viens servir, tu commences à servir le Seigneur à travers la louange et plein d'autres choses. Et vous allez voir que vous allez vous souvenir que quand on a été sauvé, en général, l'étape qui suit, c'est qu'on cherche qu'est-ce qu'on va faire pour Dieu. Voilà. Et il y a la dernière étape, ça consiste à faire de nous ses amis. C'est-à-dire des gens avec qui il partage ses problèmes, ses projets, ses soucis, son amour, sa vision du monde. C'est pourquoi... Quand il a des secrets, il dit ça à ses amis. Et ses amis peuvent maintenant intercéder. Donc ce sont ces gens-là qui sont les vrais intercesseurs. C'est vrai que nous disons, le mercredi, il y a intercession. Tel jour, nous avons intercession. Mais ça, c'est l'intercession officielle. Mais l'intercession profonde, c'est celle que chacun va s'employer à faire dans sa propre vie. Où il décide non plus de se soucier de lui-même, mais de se soucier de Dieu. Parce que l'ami, hein, vous savez, c'est l'ami se souciera de toi au lieu de se soucier de lui-même. L'ami cherche à faire plaisir à l'autre. Mais bon, un serviteur, il va faire son job. Il va faire son boulot. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Ce sont des serviteurs. Ils font leur boulot. Maintenant, ils laissent Dieu dans ses soucis. Mais eux, ils font ce qu'on leur demande de faire. Balaye, balaye. Mange, il mange. Voyage, il voyage. Mais l'ami, c'est celui qui va pas attendre qu'on lui dise ce qu'il a à faire, mais va réfléchir, va déjà penser à que faire pour plaire à mon maître, à mon ami. Va s'intéresser aux soucis de son ami. C'est ça un ami. Il s'intéresse aux soucis de son ami. Le serviteur, il attend les ordres pour faire. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une étape. Le Seigneur veut qu'on change d'étape, qu'on devienne ses amis. Et la différence entre un serviteur et l'ami, c'est que vous allez remarquer que les gens, en général, ils prient pour leurs problèmes. Ils prient pour leurs affaires. Ils prient, parfois, on va dire qu'ils prient pour d'autres, mais dans les autres, là, c'est cacher leurs propres soucis. C'est-à-dire que s'il prie pour sa maman, en réalité, donc, c'est son bonheur. Il est lié à sa maman. Il peut peut-être prier pour la réussite scolaire d'un cousin, mais il y a un lien. Mais le Seigneur veut nous amener au stade où on va prier pour quelque chose. Il n'y a pas de lien. Tout simplement parce que on a reçu la révélation que ça dérangeait le Seigneur. Quand Paul arrive à Athènes, c'est un peuple étranger. C'est ça la différence entre Paul et Jonas. Jonas, il est conscient que les Ninivites, c'est des grands pécheurs. C'est-à-dire, de toute façon, c'est des païens. Ce n'est pas des juifs. Pourquoi je vais m'en faire? Donc, on l'envoie là-bas et dit, « Ah, si je vais prêcher là-bas et que ces gens-là se repentent, Dieu aura pitié d'eux. C'est le Dieu d'amour. Donc, je ne veux pas. » Donc, il n'était pas encore ami. Il était serviteur. Il voulait bien obéir à l'instruction divine, mais il n'épousait pas la nature divine. Il ne se souciait pas de Dieu, il se souciait de lui-même. Mais il était quand même serviteur de Dieu. On ne doit pas négliger ça. Donc, on ne va pas comparer Jonas à un païen. Non, Jonas était serviteur de Dieu, prêt à obéir aux ordres de Dieu. Mais ne se souciait pas de ce que ressentait Dieu lui-même. Ne se souciait pas du cœur de son Dieu. On peut faire longtemps comme ça, serviteur, sans être ami du Seigneur. Si on ne saisit pas le temps pour devenir ami du Seigneur, on finira comme Jonas à devenir désobéissant. C'est pourquoi vous allez voir que des gens, parfois, qui ont fait 10 ans, 15 ans, on les voit actifs au service du Seigneur, en train de faire des choses, mais ils n'ont pas pris le temps de devenir amis du Seigneur. C'est ainsi qu'un jour, un ordre du Seigneur les a dépassés. Pourquoi cet ordre les a dépassés? Parce qu'ils ne comprennent pas cet ordre. Pourquoi ils ne comprennent pas cet ordre? Ils n'ont pas le même cœur que le Seigneur. Il n'y a pas eu fusion. Il n'y a pas eu amitié. Il n'y a pas eu un travail de s'occuper des pensées du Seigneur. Être serviteur, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Être sauvé, c'est bon. Au contraire, ça nous permet d'aller au ciel. Mais être ami, c'est ça l'objectif du Seigneur. Le Seigneur a dit aux apôtres, vous n'êtes plus, je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes mes amis maintenant. Vous connaissez tous mes projets. Vous connaissez mes soucis maintenant. Vous savez comment on reconnaît les serviteurs d'autrefois, les vrais? C'est qu'à la fin de leur vie, ils passent plus leur temps à prier qu'à parler. Parce que plus on grandit, véritablement, je parle de la vraie croissance, plus on devient ami du Seigneur. Les apôtres, au début, c'était des sauvés, des gens qui participaient à la gloire de Dieu. Ensuite, ils sont devenus des serviteurs, des gens qui voulaient obéir à Dieu. Mais ensuite, ils sont devenus des amis, des gens qui partageaient le souci du Seigneur, qui partageaient son amour pour l'humanité, qui partageaient ses envies à lui. Qu'est-ce que Dieu voulait? Ils partageaient la même pensée. C'est ça l'ami. De sorte qu'ils ont pu faire le travail quand le Seigneur est parti, comme il faut, parce qu'ils n'étaient pas seulement serviteurs, mais ils étaient aussi amis. Mais Jonas a voulu rester juste serviteur, obéir aux ordres, il fait ce qu'il a à faire. Un jour, on lui a donné un ordre que son cœur de serviteur n'a pas pu supporter parce que ce cœur-là n'a pas fait le travail de devenir le cœur d'un ami. Mais Moïse avait le cœur du Seigneur. C'est pourquoi quand le Seigneur voulait détruire son peuple, Moïse a dit non. Vous savez, Moïse était tellement comme le Seigneur que le Seigneur appelait le peuple d'Israël le peuple de Moïse. Pourquoi le Seigneur peut dire à Moïse « ton peuple » ? Parce que le Seigneur s'identifiait à Moïse. C'était devenu des amis, au point que le peuple du Seigneur était devenu le peuple de Moïse. Mais quand nous observons bien dans la vie chrétienne, beaucoup de personnes, quand ils prient, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est qu'une étape. Dieu veut nous amener plus loin, à nous intéresser à ses soucis, à lui. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Versets 9 à 10 d'abord. 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu a ses profondeurs, comme nous aussi. On a un côté visible extérieur, mais les gens qui nous entourent connaissent quelque part nos profondeurs. Ils connaissent nos profondeurs, ils peuvent savoir, tiens, telle chose vraiment va déranger la personne, ou bien telle chose va vraiment faire pleurer la personne, parce que c'est des gens qui nous ont observés pendant longtemps. Et Dieu a ses profondeurs. Et la Bible dit que seul l'Esprit Saint connaît les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, verset 10, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu connaît la pensée profonde de Dieu, connaît les attentes de Dieu, connaît la soif de Dieu. Et au verset 12, c'est écrit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, Paul explique que, finalement, tout chrétien devrait connaître ses profondeurs de Dieu. Pourquoi? Parce que tout chrétien a l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, le chrétien devait être capable de connaître aussi les profondeurs de Dieu à cause du même Esprit qui est en lui et qui est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, Paul considère que tout chrétien devrait connaître les profondeurs de Dieu parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Il dit, nous avons l'Esprit, pas du monde, mais l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il dit au verset 13, au verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, Paul dit, mais les gens normaux ne connaissent pas la pensée du Seigneur. Mais nous avons la pensée du Christ. Donc, normalement, l'étape qui suit le salut et le service, c'est l'étape de l'amitié avec Dieu. Mais nous sommes entourés de tellement de besoins humains, besoins de mariage, besoins d'enfanter, besoins de travail, besoins de maison, besoins de contrat de travail, besoins. On est entouré de tellement de besoins que nous allons passer notre temps à chercher des choses dont le Seigneur dit dans Matthieu 6 que les païens cherchent. Et le Seigneur nous soulage en disant, ces choses sont réglées pour les enfants de Dieu. C'est les païens qui s'embêtent pour ces choses. Et il nous prévient dans Luc 21, 34, il dit, ne vous laissez pas appesantir par les soucis de manger et de boire. Il appelle ça s'appesantir. Il dit que quand vous passez votre temps à penser à comment vous allez manger, comment vous allez boire, vous vous appesantissez et donc, en quelque sorte, même si certains peuvent se défendre en disant on utilise Matthieu 7, 7, demande, on te donnera. D'accord, mais quand ça devient notre activité principale dans la prière, c'est-à-dire demander que pour nous, on va s'appesantir. Le vrai ami du Seigneur, c'est celui qui s'intéresse aux soucis du Seigneur. Qu'est-ce qui dérange le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur aime? Et il va se mettre maintenant dans la prière pour que les soucis du Seigneur soient exaucés. Et il prie lui-même Dieu. Donc comme Moïse savait bien que Dieu aime son peuple, même si Dieu menaçait de tuer son peuple, d'éliminer son peuple, Moïse avait l'Esprit de Dieu et cet Esprit-là connaît les profondeurs. Souvenez-vous de ce passage-là, 1 Corinthiens 2. 10 à 11, l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Donc même si Dieu, dans son apparence, peut dire « je vais tuer », l'Esprit de Dieu sait que Dieu ne veut pas tuer. Mais il est juste, il doit menacer de tuer, dans sa justice. Mais dans son amour, dans ses profondeurs, Dieu veut toujours sauver. Moïse était dans les profondeurs pour dire « non, Seigneur, tu ne tues pas ton peuple ». Voilà. À un moment donné, Dieu propose à Moïse, il dit, Moïse, bon d'accord, j'ai prévu de vous donner la terre promise, je vais vous la donner, mais je ne serai plus avec vous. Je m'acquitte de ma dette, entre guillemets, je m'acquitte de ce que je vous ai promis, mais je ne serai plus avec vous. Moïse a dit, si tu n'es plus avec nous, non, moi non plus je ne bouge pas. Ce que je préfère, c'est être avec toi. Et mon frère David, que j'aime beaucoup, il a dit dans le psaume 23 que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas dérangé parce que tu es avec moi. Ce sont les amis du Seigneur. Ils se soucient de Dieu lui-même au lieu de se soucier d'eux-mêmes. Quand Dieu dit à Moïse, « Je veux faire de toi une nouvelle nation », Moïse pouvait se réjouir. Mais Dieu, Moïse s'est soucié de Dieu. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une intention de Dieu, ça? Il s'est dit, « Non, Seigneur, ça ne correspond pas à ta pensée. Parce que tu as sauvé un peuple devant beaucoup de nations. Tu ne vas pas te laisser humilier comme ça en tuant encore ce peuple-là. Ça ne correspond pas. Je m'oppose à ça. » Donc, un intercesseur, un ami de Dieu peut faire changer les décisions de Dieu. Ah oui, il peut, alors que Dieu a décidé de faire quelque chose, l'ami de Dieu dit mais non. Puisque l'ami de Dieu connaît Dieu en profondeur, il sait comment lui parler pour dire mais non, tel que je te connais, ça ne concorde pas, il y a telle chose qui ne va pas. Et Dieu peut faire marche arrière. Il peut attendre encore. C'est ainsi qu'un grand ami du Seigneur, son propre fils, a dit à la croix, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que ces gens-là avaient dit que son sang retombe sur nous-mêmes. Hein. Quand Pilate parlait, quand jugeait Jésus, ces gens-là ont dit que son sang retombe sur nous. Donc Dieu devait le frapper. Mais Jésus a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le Seigneur a arrêté le jugement pour un temps. Le temps de voir que ces gens-là changent de vie. Et lorsque nous lisons dans Jérémie au chapitre 15, l'Éternel me dit, au verset 1er, l'Éternel me dit, « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. » Donc, l'Éternel reconnaît par là que Moïse et Samuel ont une position amicale avec lui qui peut faire qu'ils changent de position. Mais pour le problème dont il était question dans Jérémie 15, il a dit, même eux, les deux là, je ne changerai pas de position. Bien-aimés, vous vous imaginez que les pouvoirs qu'ont les amis du Seigneur, ils ont un grand pouvoir. Ils peuvent retarder de grands jugements de Dieu. Ils peuvent faire participer toute la machine céleste dans le travail sur terre. Ils peuvent faire des grandes choses. Beaucoup de serviteurs à leur âge avancé sont devenus des intercesseurs. Pas des intercesseurs où on dit réunion tel jour, mais ils ont commencé à passer leur vie à regarder les problèmes de Dieu, les problèmes qui font mal à Dieu, et prier pour ça, pour le salut de tel pays, pour le changement de telle ville. Parce que qu'est-ce qui nous empêche aussi parfois d'entrer vraiment dans l'amitié avec Dieu à travers l'intercession? On a l'impression que nos demandes, nos requêtes dans l'intercession sont trop élevées. On fait une comparaison humaine en nous disant, mais bon, déjà pour avoir l'enfant, j'ai dû prier 21 jours. Déjà pour voyager, j'ai dû prier un mois. Maintenant, si je dois prier pour le salut de Rouen, c'est trop grand. Et donc, il y a un certain découragement qui s'installe dans la tête et on reste à prier pour des choses, voilà, de tous les jours. Et on n'a pas compris que Dieu, pour accomplir sa volonté, il est prêt à déployer une grande puissance. Or, 1 Timothée 2, 4 nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté. Nous sommes dans sa volonté. 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la chose, quelle qu'elle soit. On se souvient, bien-aimé, de la mère de Samuel qui demandait un enfant. Et ça traînait pour avoir l'enfant. Mais quand il a dit, « Seigneur, je ferai de cet enfant un serviteur au temple. » elle est entrée dans l'amitié avec Dieu. Avant, elle demandait dans un esprit de consommation, dans un esprit de satisfaction personnelle. À un moment donné, dans la profondeur de la prière, elle a connu le souci de Dieu. Elle s'est dit, mais c'est vrai, dans le temple, il n'y a plus de vrais serviteurs. Dans le temple, c'est les aventures qu'on voit avec Élie. Ah Seigneur, si tu me donnais cet enfant, je ferais qu'au moins lui te serve dans la vérité. Qui te serve lui? Quand il a saisi le souci de Dieu, l'enfant est venu tout de suite. Donc quand nous saisissons le souci de Dieu, bien-aimés, nous serons étonnés de deux choses. Nous serons étonnés de la rapidité de l'action de Dieu. Deuxième chose, nous serons étonnés de bénédiction que nous allons recevoir. Nous serons étonnés, sans demander, on va voir comment Dieu va nous donner des choses. On va dire, mais je n'ai pas demandé ceci. Non, tu t'es soucié de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Quelles sont les attentes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Tu te soucies de la ville, tu te soucies des humains. Je ne parle pas, comme autrefois nous disions intercesseurs comme des combattants, des guerriers du Seigneur. C'est très bien, mais il faut être encore mieux que ça, des amis du Seigneur. Sans que personne te force, tu as envie de prier pour que les choses changent sur la terre. Sans que personne te force. Donc quand tu pries pour la conversion de ton père, tu ne pries pas parce que tu veux voir ton papa seulement au ciel, mais tu pries beaucoup plus parce que tu n'es pas d'accord que ton père manque de respect à Dieu. En fait, c'est Dieu qui t'intéresse dans chaque prière. En priorité d'abord. Ensuite, nous, comme Élie avait dit à la veuve, tu me fais d'abord un gâteau à moi, ben votre cas s'examinera tout seul après. Ça ne veut pas dire que Dieu nous néglige, mais nous sommes en deuxième position. Mais quand nos prières sont des prières où la première position est donnée à nos besoins, à nos émotions, à nos attentes humaines, et la deuxième position à Dieu, ce n'est pas de mauvaises prières, mais ce ne sont pas des prières amicales, ce ne sont pas des prières d'amis, ce sont des prières de serviteurs, ce sont des prières d'humains consommateurs. Dieu veut faire de nous des amis. Et si nous sommes les amis du Très-Haut, il est clair que nous ne manquerons de rien. Il est clair que les portes nous seront ouvertes. Bien-aimés, je passais la frontière guyanaise pour revenir ici. Bon, c'est si on peut appeler ça frontière, non, plutôt le passage. Oui, c'est la frontière, le passage où on fait passer le bagage à main. Un employé, après avoir fait passer mes bagages, il vient me voir pour me dire, ta cravate n'est pas bien faite. Est-ce que tu veux que je te la refasse comme il faut? Quelqu'un qui laisse son travail, qui n'a pas peur de ses chefs, il prend la cravate, il refait la cravate devant tout le monde et je reprends la cravate, bien-aimé. Et là, Dieu montre que si tu t'occupes de son travail, il peut s'occuper de toi dans tous les détails, même te faire une cravate. Prenons du temps à nous occuper du Seigneur. Nous serons étonnés de la manière dont lui s'occupe de nous. Soyons des amis, des intercesseurs, des gens qui se disent, mais quels sont les soucis de Dieu lui-même? Le souci, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le souci, c'est que les chrétiens soient puissants. Le souci, c'est que les chrétiens l'aiment beaucoup. Intéressons-nous au souci du Seigneur. Le souci, c'est que les chrétiens soient doux comme Jésus. Que les chrétiens soient sages. Bien-aimés, quand je parcours les sites chrétiens aujourd'hui, c'est tout le temps des insultes entre serviteurs. C'est tout le temps des paroles lancées contre un autre site. Je dis, mais Seigneur, où est la douceur de Jésus? Où est l'autorité de Jésus? Vous savez, parce que quelqu'un qui a l'autorité, le chien qui est fort, il n'aboie pas, il attend seulement que tu approches pour mordre. Donc quelqu'un qui a l'autorité ne parle pas trop. il sait que l'armée des anges est avec lui. C'est ce que Élisée avait dit à son serviteur. Ils étaient en train de passer, en train de marcher, entourés par les soldats ennemis. Et son serviteur a commencé à trop parler. Mais il y a beaucoup de soldats à gauche, à droite. C'est dangereux. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit et qu'il comprenne. Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il a vu que la montagne était entourée de chars de feu pour les soutenir, pour les protéger. Et il s'est calmé. Donc Élisée ne parlait pas parce qu'il avait vu en esprit comment ils étaient protégés et entourés par Dieu. Mais l'autre parlait beaucoup parce qu'il n'avait pas vu ça. Les amis du Seigneur savent que le Seigneur est avec eux. Ils ne parlent pas trop. On a un grand ami du Seigneur, Isaac. On lui prend un puits. Il dit, bon, c'est pas grave. On lui prend un deuxième puits. Il le laisse, il lance encore. Et le Seigneur va le bénir encore d'un merveilleux puits et de beaucoup de choses. Ce sont des gens qui savent que Dieu est avec moi. Il s'occupera de moi. Je n'ai pas besoin de répondre aux critiques. Je n'ai pas besoin de répondre à une telle personne. Je n'ai pas besoin de faire le flic sur les autres chrétiens. Je prie et je parle quand le Seigneur ouvre ma bouche. Pas quand moi j'ai décidé parce que je vois des choses. Non, je fais confiance en Dieu. L'intercesseur, l'ami du Seigneur, fait confiance en Dieu. Et il s'intéresse à Dieu. Je vois que nous vivons une ère de consommateurs. Les prédications tournent autour de la réussite personnelle. Mais plus on vit cette logique-là de la réussite personnelle, plus je vois que les chrétiens souffrent et ne réussissent pas. C'est parce qu'on s'est détourné de la manière la plus sûre d'avoir tout sur terre. La manière la plus sûre d'avoir tout sur terre, c'est s'intéresser à Dieu d'abord. L'intercession. Vous savez, c'est contradictoire parce que quand on intercède, on demande, ce n'est pas pour nous, c'est pour les situations et pour les choses extérieures. Mais curieusement, c'est ça qui va faire que nous, on sera bénis de tout. Pourquoi ? Parce que vivant ainsi, nous vivons en ami du Seigneur. C'est-à-dire, nous nous intéressons à lui et lui nous prend en amitié. Puisqu'on s'intéresse à lui, donc on devient ses amis. Comment se forment nos amitiés? C'est à partir des intérêts qu'on se témoigne. Hein. Plus quelqu'un s'intéresse à toi, plus il fait du bien, plus tu as l'impression que tu peux aussi te livrer à lui. Et c'est comme ça que se constitue l'amitié. Et donc quand un chrétien s'intéresse à Dieu, s'intéresse à ses soucis à Dieu, qu'est-ce que Dieu attend pour lui? Qu'est-ce que Dieu veut pour sa famille? Qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants? Plus Dieu se dit, mais tiens, il m'aime tant, il est digne que moi aussi je lui partage mon cœur. Et l'amitié avec Dieu se fait, puisque tu t'intéresses aux soucis du Seigneur. Tu parles au Seigneur de ses propres soucis. Comme Moïse, dans les profondeurs, il savait que Dieu veut sauver son peuple. Alors il a parlé à Dieu de ce souci-là. Comme Daniel, il savait que Dieu voulait sauver son peuple. Il a parlé à Dieu de ce souci-là, dans sa prière. Pendant 21 jours, ce sont les amis du Seigneur. Et nous voyons que c'est des gens qui n'ont jamais manqué de rien. Ils ont toujours été bénis par rapport à leurs propres besoins. En réalité, on ne voit nulle part Moïse demander pour lui, Joseph demander pour lui, Élisée demander pour lui. Non, ils sont tout le temps dans l'intercession par rapport au peuple du Seigneur. Par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'action de Dieu dans le monde, par rapport à l'état de chaque enfant de Dieu. Ils sont tout le temps et le Seigneur s'occupe d'eux pour le reste. Et d'ailleurs, le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 6 clairement, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord que le règne de Dieu soit dans tout. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est vouloir que le règne de Dieu soit dans tout. Et on s'intéresse, puisque après tout, c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. On se dit, mais non, c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il faut qu'il domine sur tout. C'est ça le but de l'intercession. Il faut qu'il domine par son salut. Il faut qu'il domine par le fruit du Saint-Esprit dans le chrétien. Il faut qu'il domine par la puissance dans la vie du chrétien. Il faut qu'il domine par la douceur dans la vie du chrétien, la nature de Jésus qui se manifeste clairement dans la vie du chrétien. Et on commence à prier pour ça. C'est ça l'intercession. L'appel du royaume de Dieu, du règne de Dieu dans la vie de chaque humain et qui va commencer par le salut et ensuite par le service. Un service puissant, un service parfait. C'est ça. Et l'intercession pour l'évangélisation, pour les conversions, parce que toutes ces choses-là montrent la gloire de Dieu et établissent le règne de Dieu dans la vie des gens quand quelqu'un se convertit. Ça veut dire que Dieu est devenu son chef. C'est ça l'intercession. L'intercession, ce n'est pas seulement prier comme ça en parlant, c'est aussi s'offrir comme le Seigneur s'est offert lui-même. Donc on s'offre par son temps, on s'offre par ses biens pour que Dieu soit satisfait, pour que Dieu soit heureux par rapport à ce qu'on fait. L'objectif étant que lui soit satisfait. C'est ça l'intercession. Quand on prie pour la conversion des jeunes, on prie pour la conversion d'un tel. Mais alors que, bon, ce tel-là n'est pas forcément dans notre famille, ce tel-là n'est pas forcément dans notre environnement, ou même dans notre environnement, alors que ce tel-là nous énerve, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous énerver, au lieu de prier pour leur conversion, nous sommes tentés plutôt de prier qu'il y ait une malédiction qui tombe sur eux. Mais nous, quand on prie, quand on connaît, on est un vrai ami de Dieu, on sait que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Parce qu'on connaît les profondeurs de Dieu. L'ami de Dieu connaît les vraies profondeurs de Dieu. Souvent, quand quelqu'un entre dans mon bureau pour se plaindre de son mari, de sa femme, de son enfant, je rappelle toujours à la personne, ne t'en fais pas. Quelles que soient tes plaintes, sache que Dieu veut sauver cette personne-là. Donc, oublie le fait que Dieu tape la personne, frappe, oublie ça. Il faut connaître les profondeurs de Dieu. Dieu veut sauver. Tant que quelqu'un est vivant, il veut sauver. Alors mettons-nous à l'intercession pour son salut. Ne demeurons pas dans la colère pour que Dieu frappe la personne. On se trompe. Il y a même un verset qui dit « Attention de chercher le malheur de ton ennemi, parce que Dieu peut changer de position. » Dans Proverbe, il y a un passage qui le dit. Puisque nous sommes des amis, nous devons connaître qu'est-ce que Dieu lui veut vraiment. Dieu veut sauver. Et Moïse savait ça, il n'a même pas osé dire oui quand Dieu lui a dit « Je vais tuer tout le monde, je te garde toi et ta famille. » Moïse n'a même pas dit oui. Hein. Il n'a même pas hésité, il a dit non tout de suite parce qu'il connaissait les profondeurs de Dieu. Il sait que Dieu veut sauver. Mais il peut manifester aussi sa colère dans le jugement. On sait que Dieu est triste de voir les chrétiens dans la misère spirituelle. Ce sont des sujets d'intercession. On a beaucoup de sujets d'intercession. Et ces sujets d'intercession peuvent nous amener aussi à prêcher, peuvent nous amener à parler. Parce qu'on ne veut pas que Dieu détruise le pays. Donc nous clôturons avec Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. C'est vrai que quand on fait l'appel à l'intercession, il y a des bien-aimés qui se plaignent, mais il n'y a personne le mercredi, il n'y a personne. Moi, bien-aimé, ça ne me dérange pas. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis que pour intercéder, il faut être ami de Dieu. Si quelqu'un ne se sent pas ami de Dieu, pourquoi il doit venir? Juste puisque nous, on a fait appel. Non, il faut entrer dans la vraie intercession. Où vraiment tu viens intercéder parce que ça te dérange que Dieu soit dérangé, ça te dérange que Dieu soit en souci, ça te dérange. Tu aimes tellement Dieu que tu es embêté parce que lui, il est embêté. C'est ça. Là, si on est plein, rempli de personnes comme ça, gloire à Dieu. Mais si on doit être quatre personnes avec ce cœur-là et en train de prier, je préfère ça que certains qui vont venir peut-être avec un esprit de combat, un esprit de guerre, mais il n'y a pas le souci amical de Dieu, ce n'est pas bon. Donc il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit vraiment en phase avec le Seigneur, qu'on saisisse qu'est-ce qui dérange le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur aime. L'ami précède le besoin de son ami. C'est écrit dans Ézéchiel 22, 30. « Je cherche parmi eux un homme, vraiment un seul, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Voilà, Dieu dit, je cherche un ami. Mais je n'en trouve pas. Je cherche quelqu'un qui puisse me comprendre parce que Dieu est en colère. Bien-aimé, Romains 1, 18 nous dit que Dieu est en colère contre l'humanité pécheresse. Dieu est mécontent de voir l'état des chrétiens. Il est mécontent puisque Dieu a tout donné par son Fils à la croix qui a crié tout est accompli. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu est mécontent de voir que c'est l'argent qu'on prêche plutôt que de prêcher la vérité. Il est mécontent de beaucoup de choses et on doit saisir ça. Et quand Dieu voit tout ça, c'est sa colère qui est en action pour détruire. Mais il dit mais qui est-ce que qui peut se lever pour avoir souci et apaiser ma colère à travers l'intercession. Lui-même réclame quelqu'un comme ça. Parce que dans ses profondeurs, lui, il veut sauver quand même. Même s'il est en colère, mais dans la profondeur, il veut sauver. Mais il cherche quelqu'un qui va comprendre ses profondeurs à lui. Des vrais amis. L'apôtre Jean, quand il mourait, quand il était plutôt devenu hyper vieux, il n'arrivait même pas à marcher, on l'amenait de salle en salle voir les chrétiens. Et sa prédication, c'était toujours « Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ. » Mais on lui disait « Mais Jean, pourquoi tout le temps tu prêches la même chose ?» Il avait atteint un niveau de maturité. Il savait que tout s'est résumé par l'amour. Quand quelqu'un a l'amour pour Dieu, il va avoir l'amour pour les hommes et il va expérimenter la grande puissance de Dieu. Parce que quand tu aimes les hommes, tu vas tout le temps pleurer au Seigneur, crier au Seigneur d'agir et tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas voir comment les chaînes vont tomber. L'intercession, c'est l'ultime position, l'amitié avec Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Donc Jean intercédait par cette phrase-là, aimez-vous les uns les autres. Comme les bien-aimés ont chanté, les enfants ont chanté, 1 Jean 4, 7, 8. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. C'est-à-dire, il est en train de se distraire. Et quiconque plonge dans cet amour-là devient intercesseur. Il regarde, vous savez, quand nous regardons comment les gens tremblent pour l'économie, ils tremblent par rapport à la politique. Mais quand tu sais en même temps que mais Dieu est tout puissant, il peut sauver tout le monde, il peut aider tout le monde. Le monsieur, le fils perdu, quand il a commencé à manger les caroubes, il a dit, ah, mais chez mon père, même les petits employés, ils ont beaucoup à manger. Alors un vrai chrétien va se dire, mais tiens, mais Dieu, il a tant d'amour à donner aux humains. Pourquoi rester si loin de lui? Tant d'amour. Comme notre frère Paul dit, comment les gens peuvent louper un si grand salut? Alors Dieu cherche des intercesseurs, des amis qui vont s'oublier eux-mêmes, qui vont penser à Dieu. C'est ça les vrais amis. Ils s'oublient pour les autres amis qui vont penser à Dieu. C'est très important. Dieu cherche des intercesseurs, des gens qui vont porter le fardeau de Dieu sur eux. Dieu veut partager son fardeau. Jésus ne nous a pas dit qu'il enlevait nos fardeaux seulement. Après avoir enlevé nos fardeaux, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur nous son fardeau à lui. C'est ça les intercesseurs. Ils ont le fardeau de Dieu. Leur fardeau à eux est enlevé. L'argent, mariage, voiture. Dieu dit, moi j'enlève ça. Mais je mets mon fardeau maintenant sur toi. Le fardeau du salut de l'humanité. Le fardeau de vivre l'amour. Le fardeau de voir des chrétiens prier. Faire de la maison de Dieu une maison de prière. Le fardeau de voir les chrétiens aimer le Seigneur, vivre dans la puissance de Dieu. Dieu va mettre maintenant son fardeau sur toi. Mais beaucoup de gens, ils veulent juste se décharger de leur fardeau sur le Seigneur sans se soucier du fardeau du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Ce faisant, leurs fardeaux reviennent encore. Et donc, ils passent leur temps à se décharger parce qu'ils n'ont pas pris le fardeau du Seigneur. S'ils prenaient le fardeau du Seigneur, ils verraient comment naturellement, le Seigneur va décharger de ce fardeau à lui. Naturellement, plutôt de leur fardeau à eux. Naturellement. On perd notre temps, bien-aimés, en pensant que, en priant tout le temps pour nos problèmes, que ça va être résolu. Si nous voulons voir nos problèmes être résolus rapidement, soucions-nous du Seigneur. Occupons-nous du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Donc, l'intercession nous amène dans l'amitié avec Dieu et il commence à nous partager toute sa pensée. Ça nous permet encore de mieux prier, de savoir quoi cibler, parce que le Seigneur nous partage sa pensée. Pour chaque cas, pour chaque personne, on sait quoi cibler dans la prière parce que nous avons la pensée du Seigneur. Comme notre frère Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 2, nous avons l'esprit du Seigneur, nous avons donc la pensée du Seigneur. Et on sait comment prier. Et quand on vit cette vie-là amicale avec le Seigneur s'occupe de tout ce qui nous concerne. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait jamais à demander en ce qui nous concerne, mais on demandera juste parce que l'Esprit nous pousse à demander, mais parce qu'on s'inquiète. On demandera parce qu'on est des humains, on peut arriver à demander parce qu'on a un besoin pressant, mais on ne s'inquiétera pas. On sait que le Seigneur est notre ami, il va agir. Il nous appelle vraiment à être ses amis, à entrer dans cette paix-là de Joseph, d'Élisée, d'Élie. Il veut qu'on entre dans cet état-là, dans cette étape-là. Vous savez, quand le Seigneur, on vient le trouver, mais qu'est-ce que tu fais? Viens manger. Il dit, j'ai quelque chose à faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça l'intercesseur. Il pense à la volonté de son Père. C'est ça sa nourriture. Et nous devons penser aux attentes du Seigneur. Bien-aimés, vous savez, quand on est dans cet état-là, on voit les choses autrement. Et on ne sera pas des gens qui répondront au mal par le mal, ni qui se sentiraient menacés, par exemple. Parce que celui qui nous pointe le couteau, nous le voyons comme une personne à sauver, quoi. Donc nous ne nous sentons plus menacés. Et on reste dans un état d'amour, parce que on pense plus à Dieu. Quand on voit le couteau, on dit, mais non, mais Dieu veut sauver la personne. Mais si on pense à nous, on va chercher à quoi? À se défendre. Mais si on pense à Dieu, on dit, ah, mais non, mais Dieu veut sauver mon ennemi. Et donc, naturellement, l'amour va s'installer. Et tout ce qui est comme critique, comme rabaissement, dénigrement, tout ça va glisser sur nous. Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous voyons sous l'angle divin. Nous voyons à travers l'amour de Dieu. Nous voyons à travers les besoins de Dieu, à travers les attentes de Dieu. Et nous voyons les choses autrement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à faire ta volonté, à voir les choses comme toi tu vois, Seigneur, à être tes amis, à marcher avec toi, à nous intéresser à toi. Et nous sommes sûrs que toi, tu vas t'intéresser à nous, Seigneur. D'ailleurs, tu t'es tellement intéressé à nous que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Aide-nous, Seigneur, à penser à toi. C'est vrai qu'on peut être là à collectionner les sujets de prière, d'intercession, mais il ne suffit pas de les collectionner. Il faut vraiment penser à ce qui t'embête dans ces affaires-là, ce qu'est ton souci, Seigneur, à marcher en ami avec toi et non pas juste en serviteur. Au nom de Jésus-Christ, que tout notre être soit à toi et serve à l'intercession qui consiste pas seulement à prier, mais à s'offrir et parfois qui consiste à parler. Au nom de Jésus-Christ. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur.
Ô divin roi,
prends mon âme.
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour.
Entends
ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur.
Source de vie,
source de vie, de paix, d'amour,
oh.
Et toi je crie.
Plainte,
sois mon soutien.
Amen.
Calme ma crainte, toi mon Seigneur.
Seigneur, nous voulons prier pour la France, Seigneur. En apparence, c'est un pays rebelle à l'Évangile. En apparence, ce sont les politiciens qui semblent être le Dieu de la France. En apparence, Seigneur, l'athéisme règne. Mais nous, nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il est écrit que ta gloire remplit toute la terre. C'est pourquoi nous refusons de laisser ces choses régner sur ton pays, Seigneur. Car c'est toi qui as fixé les limites à toutes les nations. C'est toi qui as livré, laissé ton fils à la croix afin que la France soit sauvée. Seigneur, nous prions que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde du journalisme, dans le monde des entreprises, que tu aies toujours un peuple, Seigneur, un peuple qui porte le flambeau pour éclairer les ténèbres dans tous ces lieux, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans ta gloire. Manifeste-toi dans ta puissance. Nous t'en prions, Père éternel. Nous croyons en toi. Seigneur, comme nous l'avons dit précédemment, les sites internet aujourd'hui, Seigneur, ne servent qu'à la guerre entre chrétiens, Seigneur. Nous voulons que cela cesse. Qu'il y ait de nouveaux sites qui se consacre à prêcher le véritable évangile et à sauver les âmes. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Nous t'en prions, afin que les chrétiens d'aujourd'hui s'intéressent aux fruits de l'Esprit, pas seulement aux choses à faire, mais à la nature de Dieu, à la nature de Jésus. S'intéresse à lui ressembler, Seigneur. Pas s'intéresser seulement à être pasteur, à faire ceci ou cela, qui parfois est bien, mais s'intéresser à ressembler à Jésus, à être un ami, à avoir les mêmes pensées que le Seigneur et à tourner ses pensées en prière. Oh, Père éternel, que cela change. Suscite au milieu de nous, Seigneur, de véritables intercesseurs, de vrais amis, Seigneur. Nous t'en prions. Nous en avons besoin. Toi-même, tu les cherches. Tu as crié dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche un homme. » Oh, Seigneur, suscite des véritables amis au milieu de nous. Des gens qui, à travers leurs prières, vont changer la destinée de beaucoup de personnes. Vont changer la vie de beaucoup de personnes et vont contribuer à la manifestation de ta gloire sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste-toi. Qu'il y ait des intercesseurs, des amis, de tout âge, même des enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Agis. Nous croyons que tu es bon, Seigneur. Nous croyons que tu es amour et tu vas nous exaucer. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.